Combien nous avons besoin de ta révélation, car sans elle, nous ne pouvons comprendre, ô Dieu de miséricorde, ta parole. Car il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les choses de Dieu. Aussi, viens à notre aide, Père, et assiste-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire dans Exode 25. À partir du verset 8 et 9. Exode 25, 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. On va lire Exode 26, le verset 30. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'ont montré sur la montagne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de l'homme spirituel. Et le tabernacle est comme l'image de l'homme spirituel. Et le tabernacle est constitué de trois parties. Là, tu peux projeter la première image. Donc, le tabernacle est constitué de trois parties ou trois principales pièces. On a le parvis ou la cour extérieure. On a le lieu saint et le lieu très saint. Et dans chaque pièce, on a trois éléments. Dans les parvis, on a l'autel des sacrifices. Ensuite, on a la cuve et naturellement l'animal qui devait être sacrifié. Et si on avance dans les lieux saints, il y a trois éléments aussi. On a le chandelier, la table de pain de proposition et l'autel de parfum. Si on avance encore plus loin, on a dans le lieu très saint, on a l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, il y a trois éléments. On a le pot de manne, deux tables de loi et les bâtons d'Aaron. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà tous ces éléments qui sont là. Donc, l'autel des sacrifices, c'est là où les animaux étaient sacrifiés. La cuve, c'est là où les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est quoi? La tente d'assignation est composée du lieu saint et du lieu très saint. Ça, c'est la tente d'assignation. Et il risquait de mourir s'il ne le faisait pas. Il y avait encore autre chose qu'il faisait lorsqu'il lavait les mains, avant de s'approcher de l'autel pour offrir. Pour offrir les sacrifices, il devait aussi se laver les mains et les pieds. Bien. Ce qu'on voit, c'est que dans chaque élément, dans chaque pièce, il y a trois. On parlera de ces chiffres, si Dieu le veut, peut-être la fois prochaine. Mais ces chiffres ont une signification que nous verrons, si Dieu le veut, la fois prochaine. Bien. Donc, les tables de loi, c'est ce que l'Éternel avait gravé lorsque Moïse est monté à la montagne. Les pots de manne, c'était comme témoignage que les enfants d'Israël ont mangé de la manne dans le désert, et c'était pour les descendants. Les bâtons d'Aaron qui a fleuri, ça marquait en fait la souveraineté de Dieu dans les choix des serviteurs. Et le tabernacle a été construit selon les modèles que Dieu a montré à Moïse. Ce qui veut dire que ce tabernacle est le type
du véritable tabernacle qui se trouve dans les cieux. Si Dieu nous a donné ce modèle, c'est que cela a une grande importance. Et le modèle, pourquoi Dieu l'a donné? Parce que la pensée de Dieu, c'est de venir habiter au milieu d'Israël. Et le tabernacle était une structure mobile. Parce que dans le désert, il devait se déplacer. Et donc, on devait chaque fois monter et démonter lors de départ ou lors de l'installation. Bien. Quand on creuse plus profondément, on voit que le tabernacle constitue la structure de base des réalités beaucoup plus profondes que nous retrouvons au niveau des différents domaines de la vie. On voit cela au niveau de la biologie, de la médecine, de la génétique, des mathématiques, de l'informatique. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est un modèle que Dieu a donné parce que cela se retrouve dans quasiment toutes les structures de la vie. Bien. Ce tabernacle, c'était dans le désert, mais lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, ils n'avaient plus besoin de se déplacer. Et David a eu l'idée de construire une maison à Dieu. Et c'est comme ça que David, plutôt Salomon, va construire le temple qui est en fait la version agrandie, si vous voulez, du tabernacle. C'était David qui avait eu la pensée. Ce n'était pas Dieu, mais c'est David. Et Dieu a agréé cette pensée, mais les plans du temple étaient donnés par Dieu lui-même. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un construise sa maison selon la pensée humaine. Et comme ça, il a donné lui-même le plan. Donc, c'est Dieu qui est lui-même l'architecte de la maison où il voulait bien habiter. Ceci est très important. Comme il a fait pour le tabernacle, je disais, Dieu a donné les plans détaillés alors de comment le temple devait être construit, sa structure, l'ameublement, les matériaux à utiliser, les couleurs. Tout ça a une signification. Néanmoins, c'est Salomon qui va construire le temple, car Dieu n'a pas voulu que David construise le temple parce qu'il était un homme de sang. Vous vous rappelez de l'histoire d'Uri et de Bathsheba. Pourquoi le temple est si important? Le temple est l'endroit où se déroulaient les services au Dieu vivant. Donc c'est là qu'on sacrifiait, c'est là qu'il y avait les fêtes, les prières. Si Dieu nous le permet, on parlera des fêtes à une autre occasion. Le temple signifie la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cela veut dire que le temple est au cœur de l'adoration même de Dieu et même de l'existence du peuple d'Israël. Car sans temple, pour Israël, il n'y a pas d'expiation. Sans temple, il n'y a pas de sacrifice. Sans temple, le peuple d'Israël n'est rien. Et c'est comme ça, on verra ça prochainement, que en Israël, il y a un institut du temple. On est en train de construire tous ces éléments qu'on voit ici pour le futur temple. C'est déjà en place. Quasiment tout est prêt. Les animaux de sacrifice, l'autel de sacrifice, la cuve, tout ça, c'est fait. Et même les sacrificateurs et leurs tenues sont déjà construits. Donc, le temps est fort avancé. Nous reviendrons sur ça lorsqu'on parlera des prophéties du temps de la fin. Donc, je disais que le temple est au cœur de l'adoration d'Israël. Bien. Et le temple, c'était le seul lieu d'adoration des Juifs. Il n'y en avait pas un autre. C'était le temple. C'est quand ils vont être déportés à Babylone, au retour, Ils ont construit le temple, c'est vrai. Mais il y avait, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à construire aussi des synagogues. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'était le temple. Et
le souverain sacrificateur était la seule personne qui pouvait entrer dans les trois pièces.
Il était la seule personne qui pouvait entrer dans les trois pièces.
Et il entrait dans la dernière pièce, c'est-à-dire le lieu très saint,
pour aller plaider en faveur du peuple, ou alors recevoir les instructions de Dieu en faveur du peuple. C'était l'homme le plus spirituel de tout Israël. Et celui qui passait par ces trois pièces avait un autre statut, un autre rang. Comme je dis, il était l'homme le plus élevé en rang et le plus spirituel. Il était l'homme le plus élevé en dignité. Il faut voir les habits que Aaron mettait lorsqu'il devait aller pour le sacrifice. Le frère François a parlé dernièrement qu'au Congo, les ministres sont appelés Excellence et les députés des honorables. Mais beaucoup n'ont d'excellence que les noms et ils n'ont d'honorable que les noms. Leurs actes prouvent qu'ils ne le sont pas. Et c'est une honte pour toute la nation quand une excellence ou un honorable se comporte différemment que ne l'exige son rang. Il y en a qui détournent de l'argent au-dessus de tous et ils sont toujours au gouvernement ou au Parlement. Dernièrement, la toile congolaise s'est enflammée à cause de la ministre des Affaires étrangères congolaise qui est enceinte, alors qu'il semble qu'elle n'est pas mariée. Dans les coutumes africaines et même dans la chrétienté, cela pose problème. Il y en a un que j'ai suivi qui disait qu'elle peut être compétente, et probablement elle l'est, mais sa moralité laisse à désirer. Et la ministre des Affaires étrangères, c'est celle qui représente les pays à l'étranger. Ça veut dire qu'elle est à un niveau très élevé, parce qu'elle fait partie normalement, ou il fait partie des ministères régaliens, donc les ministères les plus importants d'un pays. Ce qui pose problème, ce n'est pas qu'elle soit enceinte. C'est une bonne chose que d'avoir un enfant, surtout qu'elle a plus de 40 ans. Mais c'est plutôt quel modèle met-elle devant les jeunes filles de la nation, alors que dans les familles africaines, cela pose scandale au point où parfois la jeune fille est chassée de la maison. Et comment la ministre, qui va dans les négociations, comment peut-elle vraiment encore, comment la nation congolaise peut être vraiment respectée parce qu'elle est appelée à négocier avec des autres pays? Et dans certains pays, par exemple les pays arabes, c'est quelque chose qu'ils ne tolèrent pas. Ça veut dire qu'elle fait la honte de tout le pays. Qui plus est, elle risque d'ouvrir une brèche afin de faire accepter à la nation congolaise l'inacceptable. Parce que les gens vont se dire, ben, si la ministre le fait, alors moi aussi je le fais. Et cela va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, les spéculations vont bon train sur qui en est l'auteur. C'est un problème. S'il avait un mari, personne ne lui poserait de questions. Et il y en a qui veulent savoir l'auteur, car le pays étant en guerre, avec toutes les négociations sur la paix qu'elle conduit, si l'auteur est un de ceux qui agressent le Congo, elle risque de dévoiler les secrets du pays. cela va encore beaucoup plus loin, au point où il y en a qui évoquent le cas de Marie et Joseph. Je ne sais pas si la ministre prie, mais cela fait maintenant dire aux gens n'importe quoi. Et alors, quelle est sa réponse à tout ça? Elle a porté plainte contre ceux qui ont diffamé son nom et sa famille. Nous devons vraiment faire attention car nos vies ne sont pas aussi privées que nous le pensons. Les gens nous regardent, surtout lorsque vous êtes en position élevée. Lors de l'AGAP, le frère François a parlé des premiers-nés, de Ruben, le premier-né de Jacob, qui a perdu son droit d'aînesse car il est monté sur la couche de son père. Bien qu'il ait protégé son frère Joseph de la mort, il devait se rappeler qu'il était le premier-né. Le premier-né a un rang élevé car il reçoit une double portion de l'héritage du père. Ruben avait donc un rang à honorer. Et puisqu'il n'a pas honoré ses rangs, il a été détrôné. Si on compare avec ce qui se passe au Congo, le premier-né est une excellence. Et il doit être excellent dans ses actions, dans son comportement, dans son habillement, dans tout. C'est une grande responsabilité, mais aussi un grand honneur. L'honneur va avec la responsabilité. C'est pourquoi Dieu nous baptise de son esprit pour que nous ne fassions pas n'importe quoi et que nous n'éternissions point sa dignité et son honneur. On va lire dans 1 Corinthiens 12, 13. On ne sera probablement pas long. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et nous savons que l'Assemblée des saints est une assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On peut lire dans Hébreux 12, à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous voyons que les premiers-nés sont des gens qui sont dans un environnement hautement spirituel. Ce n'est pas n'importe qui peut s'approcher de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, de la cité du Dieu vivant. Si on lit, on va lire plutôt dans Psaume 24, à partir du verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, de Jacob. L'exigence est élevée. L'apôtre va beaucoup plus loin. L'apôtre fait la différence entre l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. On peut lire dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui et elle ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien. L'apôtre Paul parle de trois types d'hommes. Il se retrouve dans l'assemblée. Le premier homme, c'est l'homme animal. Celui-là, il ne peut pas connaître les choses de Dieu. Là, tu peux projeter la deuxième image. Donc, l'homme animal s'arrête au niveau du parvis. Il ne va pas plus loin. Il vient pour soulager sa conscience. Et après, il repart dans ses voies impies. Ceux qui aiment bien s'amuser, comme on dit. Mais, le but n'est pas de venir au parvis. Le but, c'est d'aller plus loin. Car il y a plus en Dieu. Il y a des trésors insoupçonnables en Dieu. À la différence de l'homme animal, l'homme charnel va un peu plus loin que le parvis, mais pas assez loin pour découvrir davantage des choses en Dieu et devenir un homme mature. Il se contente de boire du lait, quelqu'un qui ne grandit pas ou qui ne veut pas grandir. Il est là. Et si Dieu nous le permet, nous verrons que et il y a l'eau et le sang, et ce sont les deux éléments qui participent lors de la naissance d'un enfant. Et celui qui est là, il est dit qu'il est un enfant, il est un bébé parce qu'il prend de lait, ça veut dire qu'il est né. Il est né, mais il est encore un bébé. Et un bébé est un ignorant. Bien. Lui ne gire que par les serviteurs de Dieu. Qu'il fasse bien ou mal, il dit amen. Il n'arrive pas à détacher ses yeux de lui. Il est fanatique du serviteur de Dieu. Il faut détacher tes yeux de lui, du serviteur, je veux dire. Il faut aller au-delà du serviteur. C'est Dieu qui t'a sauvé et lui n'est qu'un serviteur qui a planté peut-être ou qui a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ta vie ne doit pas dépendre de lui. Ça veut dire qu'il faut grandir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1, on va lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, mais non pas de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel.
C'est celui qui est... Là, tu peux remettre. C'est celui qui est ici. Il est encore charnel.
En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Car l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? C'est pourquoi je parlais des fanatiques des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais de Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Paul a même des reproches à faire à son sujet.
L'homme charnel, hein? Naturellement. L'homme charnel. Celui-là, on ne s'occupe pas trop de lui parce que... Mais c'est celui-ci qui doit grandir.
Et l'apôtre Paul dit que
celui-là n'a pas l'expérience,
c'est un enfant, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Remarquez, il est parlé de la parole de justice. Ce n'est pas un enfant qui tranche. Ce n'est pas un enfant qui juge. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non pas d'une nourriture solide.
Il y a comme une inversion là. Ça veut dire qu'il y a un défaut de croissance. Il y a un problème.
Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez qui est l'homme spirituel. C'est celui qui sait discerner le bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Un proverbe dit, quand le sage montre les cieux et son infinie grandeur, l'ignorant regarde les doigts. Et pour paraphraser, je dirais, l'homme charnel est celui qui, quand le serviteur lui montre Dieu et sa puissance, lui, il regarde le serviteur. Regardons maintenant l'homme spirituel.
L'homme spirituel, c'est celui qui a accès aux trois pièces. Et ici, c'est la présence de la Shekinah, la gloire de Dieu. C'est quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu.
Et nous voyons le type
dans l'Ancien Testament, c'était les souverains sacrificateurs qui rentraient là-dedans. Et si vous vous souvenez, le voile a été déchiré. L'enfant doit grandir pour arriver là. Il ne doit pas marcher à quatre pattes, il doit devenir un adulte pour arriver là.
Pour l'homme spirituel, c'est dans les secrets de l'intimité que Dieu lui révèle les choses. Il juge de tout parce qu'il a la pensée de Christ. Et son jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un homme devenu parfait en Christ. On peut le lire dans Colossiens 1, 24, à partir du 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître. Je ne sais pas pourquoi il y a qui ici, mais ça me paraît bizarre cette phrase. Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ce à quoi je travaille, c'est l'apôtre qui parle, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous voyons ici, vous n'êtes pas devenu parfait par vous-même, mais vous êtes devenu parfait en Christ. C'est en Christ qu'on devient parfait. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'homme spirituel, c'est celui qui est en Christ. C'est celui qui s'abreuve de l'Esprit de Dieu, c'est celui qui sait discerner le bien, ce qui est bien et ce qui est mal, c'est celui qui accède dans la présence de Dieu. Dieu lui parle et l'instruit. Le souci de Paul dans son ministère était de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et comment devient-on parfait en Christ? Il y a un travail de préparation que l'apôtre Paul a fait pour arriver à présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Il s'est forcé à faire cela en tout cas. Jean-Baptiste a eu un travail de préparation de cœur par son ministère et il a présenté Christ à ceux dont le cœur était préparé. Il y a donc des étapes. Un chemin de préparation qui nous est tracé. Et ce chemin se trouve au travers du tabernacle. Le chemin se trouve au travers du tabernacle. Nous reviendrons là-dessus pour voir de quoi exactement il s'agit. Il y a donc des étapes. Il y a un chemin de préparation. C'est le chemin du vrai adorateur. Et la Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons nous arrêter là. Si Dieu nous le permet, nous parlerons la prochaine fois de ce chemin. Mais aussi du nombre symbolique, 3, 3, 3. Nous verrons que, mais ça, ce sera plus tard, que c'est peut-être lié avec le pape aussi. Et on verra si Dieu nous donne la force. La question où examine-toi, mon frère, examine-toi, ma sœur. Lorsqu'on te montre Dieu, que vois-tu ou qui vois-tu? Si tu ne vois pas Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Si tu vois les serviteurs de Dieu, détache tes yeux de lui et que Dieu t'aide à porter tes regards au-delà. L'apôtre Paul parle de l'homme spirituel et pas de l'homme religieux, car beaucoup se sont enfermés dans la religion. Prie Dieu qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation. On va prier. Merci, Père, pour l'occasion de nous donner encore de pouvoir parler de cet homme spirituel, Père, pour nous examiner nous-mêmes et voir à quelle étape sommes-nous, Père éternel, ô Dieu. Bien-aimé, c'est toi qui nous éclaire sur ce chemin et c'est toi qui nous soutiens sur ce chemin. Aucun homme, Père éternel, ô Dieu, s'il n'est instruit de toi, ne peut connaître les voies de Dieu. Et c'est pourquoi, ô Dieu, nous sollicitons ta grâce et ta miséricorde afin que tu nous aides, Père éternel, ô Dieu, afin que, ô Dieu, nous puissions comprendre les voies de Dieu. Le temps est fort avancé et nous voyons les prophéties s'accomplir devant nous. Les choses se bousculent devant nous, Père éternel, ô Dieu. Mets en chacun cette urgence, Père éternel, ô Dieu. Oh bien-aimé, que le cœur puisse soupirer après ce baptême, Père, car c'est à ce moment-là que nous serons les véritables adorateurs de Christ. Autrement, Père éternel, ô Dieu, soit nous sommes en chemin, soit nous ne sommes pas du tout, Père. Alors que ta grâce tombe sur chacun, Père éternel, ô Dieu, pour éclairer, guider, Père éternel, ô Dieu. Merci, ô Dieu de miséricorde, pour cette grâce et cette faveur nous accorder, Père, de partager ces quelques moments. Oh, nous croyons, Père éternel, ô Dieu, que tu as planté ces choses en chacun de nous, Père, et que chacun va ruminer ces choses, Père éternel, ô Dieu, pour chercher ta face, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tous tes bienfaits, Père éternel, envers chacun, Père éternel, ô Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs, Père éternel, ô Dieu. Envoie-nous cet esprit de révélation et de sagesse, Père éternel, ô Dieu. Car en toi, il est des grands trésors, Père éternel, ô Dieu. Aussi, nous voulons seulement, Père éternel, ô Dieu, que tu nous y conduises, Père éternel, ô Dieu, et que ta grâce, Père éternel, ô Dieu, nous soit manifestée. Sois béni, sois loué, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tout, Père éternel, ô Dieu. Reçois honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour frère François qui voyage demain et pour son frère qui est souffrant, afin que Dieu lui soit favorable pour le guérir. Que son séjour là-bas soit une bénédiction pour son frère et pour toute la famille. On va prier. Seigneur, vois ton serviteur, Père éternel, ô Dieu, qui va prendre l'avion demain, Père, pour le Congo. Nous le recommandons entre tes mains. Tu sais l'urgence qui est là, Père éternel, ô Dieu. Et nous prions, Père éternel, ô Dieu, pour que ta grâce puisse l'accompagner, Père éternel, ô Dieu, et que cette même grâce, Père éternel, puisse visiter, ô Dieu, son frère, Père éternel, ô Dieu. Oh, tu sais combien, ô Dieu, ces derniers temps, il souhaitait aller le voir, Père éternel, ô Dieu. Fasse que ceci soit une occasion, Père éternel, et certainement, les retrouvailles, Père éternel, ô Dieu, malgré la situation qui est là, seraient pour moi des retrouvailles heureuses, Père éternel, ô Dieu. Et nous te prions, Père éternel, ô Dieu, pour que, ô Dieu de miséricorde, oh, son frère, Père éternel, puisse te connaître, ô Dieu. Car, ô bien-aimé Père céleste, le monde ne peut rien nous donner, Père éternel. Et au-delà de cette vie, Père éternel, il y a une vie, ô Dieu. Aussi puisses-tu, Père éternel, ô Dieu, permettre qu'il puisse parler de toi, Père éternel, ô Dieu. Et nous prions, Père éternel, pour sa guérison au nom de Jésus-Christ, Père éternel, ô Dieu. Que la guérison germe, Père éternel, qui puisse témoigner, Père éternel, de ta grandeur et de ton amour, Père éternel, pour lui. Merci pour cela, Père éternel, oh Dieu. Maintenant, Père, nous arrivons au terme de cette réunion. Nous prions, Père éternel, oh Dieu, que tu puisses, oh Dieu, nous accompagner, Père éternel, nous garder de tout mal, Père éternel, oh Dieu, nous préserver de tout accident ou de tout incident fâcheux, Père éternel, oh Dieu. Et s'il y a encore un lendemain pour nous, nous nous retrouverons, Père éternel, oh Dieu. Et lorsque nous nous retrouverons, Père, nous te dirons merci, Père éternel, oh Dieu. Sois béni, Père éternel, que les malades, Père éternel, puissent trouver en toi la guérison, que ceux qui sont fatigués, Père éternel, oh Dieu, puissent trouver en toi la force, que ceux, oh Dieu, qui sont brisés, Père éternel, puissent trouver en toi la consolation. Merci pour tout, Père éternel, que tu reçoives honneur, louange et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.